Le journal de l'économie avec Charles Bonner.
Il est 6h48, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, les bourses en difficulté en pleine tension géopolitique. Le CAC repasse en dessous des 8000 points. Une liste de sites industriels clés en main dévoilée par le gouvernement pour attirer des investisseurs. Et puis la fin de la consultation à Flamanville sur un projet de centrale soutenu localement. C'est le propre des seuils symboliques. Quand on passe au-dessus, tout le monde se réjouit. Et quand on redescend, tout le monde s'interroge. Le CAC avait franchi la barre des 8000 points le mois dernier. Il a terminé en dessous hier, 7932 points, moins 1,40%. Francfort, Londres, le Nasdaq américain sont aussi dans le rouge. Le Dow Jones légèrement dans le vert. Et le Nikkei ce matin est en légère baisse. Bonjour Marc Toiti.
Bonjour.
Vous êtes économiste et président du cabinet ACDFI. Alors pourquoi les marchés sont-ils si fébriles?
Il y a trois grandes raisons à cette correction des marchés boursiers. Il y avait une forte hausse depuis le début de l'année. On a même une bulle qui s'était formée. Donc là, on a une correction de cette bulle. Deuxième grande raison, les marchés s'étaient mis à rêver à de fortes baisses des taux d'intérêt pour 2024. Or, avec l'augmentation de l'inflation, notamment aux États-Unis, eh bien, ces baisses de taux vont être très limitées. Donc là, évidemment, inquiétude supplémentaire. Et puis, évidemment, troisième point, le contexte géopolitique international qui est toujours très dangereux, avec aussi un risque peut-être de retour de la récession dans certains pays, et avec en toile de fond les prévisions donc du FMI qui alertent justement les marchés.
Et on en parlait d'ailleurs dans le fait écho du jour, cette note du FMI qui parle d'une surchauffe de l'économie américaine. Quels sont les risques?
Eh bien, c'est très simple, c'est que l'économie américaine va très bien, il y a une croissance soutenue, un taux de chômage de plein emploi et surtout l'inflation qui repart à la hausse. Alors l'inflation au niveau des prix à la consommation, bien sûr, mais aussi au niveau des prix à la production. On voit également sur les cours des marchés des matières premières que ça augmente également. Et donc là aussi, ça veut dire que ça va aviver les tensions inflationnistes. Et donc c'est pourquoi la Réserve fédérale américaine ne pourra pas baisser fortement ses taux d'intérêt. Et parallèlement, comme il y a une dette publique aux États-Unis qui est également très forte, à ce moment-là, les taux d'intérêt des obligations d'État vont rester aussi élevés. Donc, ce sont un petit peu là les risques de surchauffe, c'est que finalement, ça va presque trop bien. Et donc, la Réserve fédérale américaine ne pourra pas baisser ses taux d'intérêt. Donc, c'est ce qui inquiète un petit peu les marchés financiers.
Et le FMI se dit aussi inquiet d'un décrochage de l'économie européenne.
Alors malheureusement, si on a une croissance forte outre-Atlantique, chez nous, on voit que c'est toujours la croissance zéro. Et donc là, c'est évidemment extrêmement inquiétant. Il y a quelques pays qui s'en sortent, notamment l'Espagne, l'Italie, l'Irlande, qui redémarre un petit peu. Par contre, c'est vrai que les deux grandes puissances, donc l'Allemagne et la France, nous restons les lanternes rouges de l'activité dans la zone euro. Et parallèlement, c'est que si la BCE peut baisser un petit peu les taux d'intérêt, parce que justement, il y a une quasi-récession, l'inflation va repartir à la hausse. Et comme les Américains ne vont pas baisser fortement les taux d'intérêt, la BCE ne peut pas aller trop loin. Sinon, ça va faire baisser l'euro. Et si l'euro baisse, ça fait augmenter l'inflation importée. Et donc, ça casse l'activité économique. Et c'est un cercle pernicieux, très dangereux.
Marc Toiti, l'invité du journal de l'économie. Merci Marc Toiti.
Avec plaisir. À bientôt.
Et on l'entend donc, l'Europe décroche et cherche la solution économique. Elle sera discutée lors d'un sommet à Bruxelles ce soir et demain avec une note attendue d'Enrico Letta, l'ancien président du Conseil italien, qui prône une meilleure intégration dans les domaines de la finance, des télécoms et de l'énergie et qui relance l'idée d'union des marchés des capitaux. Mais les marges de manœuvre en termes d'investissement sont limitées par les déficits publics. C'est le cas en France, dont le gouvernement présente en Conseil des ministres aujourd'hui son programme de stabilité, en clair sa feuille de route des prochaines années. Ce sera présenté ensuite à la Commission européenne. Les économies sont déjà annoncées et même si on ne repasse pas en dessous des 3% de déficit, l'Europe sera indulgente selon Éric Ayer, le directeur du département analyse et prévision de l'OFCE.
Globalement, la Commission européenne nous demande de faire aux alentours de 12 à 14 milliards d'euros d'économies chaque année tant qu'on est au-dessus des 3%. Pourvu qu'on les fasse, on ne sera pas sanctionné, même si les déficits se résorbent moins vite qu'anticipé. Si vous notez le programme de stabilité, il y a des efforts structurels qui vont être demandés aux Français, qui même dépassent les engagements européens, puisque on va être au-delà des 12-14 milliards d'euros chaque année. On serait plutôt à 20 milliards, et ça, la Commission sera plus clémente de ce point de vue.
Éric Ayer avec Lucie Dupressoir, nouvelle piste d'économie annoncée. Le reste à charge qui va passer de 1 à 2 euros pour les consultations chez le médecin ou pour les examens biologiques. Pour le transport médical, ce sera 4 euros avec le doublement de la franchise pour les médicaments déjà annoncés. L'assurance maladie devrait économiser 800 millions d'euros en année pleine. Réindustrialiser le pays comme solution pour l'emploi et la souveraineté, c'est le mot d'ordre des dernières années. Mais face à des investisseurs qui y voient surtout des difficultés, le gouvernement publie une liste de 55 sites clés en main, prêts à accueillir des entreprises. Éric Kioch.
Oui, le constat maintes fois martelé ces derniers mois est simple. L'installation d'une usine prend trop de temps en France. 17 mois en moyenne, à contrario en Allemagne, c'est 4 à 12 mois maximum. Alors, le gouvernement veut accélérer, faciliter l'implantation des chaînes de production, ramener à 9 mois la durée moyenne pour qu'une usine ouvre ses portes. Il avait donc promis de cibler les sites propices à les accueillir et ils sont de toutes les tailles, de 3 à 340 hectares partout sur le territoire. 55 sites, donc 30 sur des friches industrielles, 25 sur des terres vierges, où vont débuter études et travaux pour s'assurer de leur conformité en matière de respect de l'environnement, mais aussi pour gérer les alimentations de gaz et d'électricité, coût total 450 millions d'euros. Et 5 de ces sites seront disponibles dès cette année, une réponse au manque criant de foncier industriel français, handicap principal selon le gouvernement dans sa stratégie de réindustrialisation. Au-delà de ces sites clés en main, 12 500 hectares supplémentaires seront réservé à l'industrie, mais aussi des infrastructures de transport ou énergétique. Pour le moment, 167 projets sont sur la table. Des terres sanctuarisées par l'exécutif, car si la France attire de nouveau les industries, comme le démontrent les plus de 200 ouvertures de sites recensées en 2023 contre 176 en 2022, les inquiétudes persistent. Les prix des énergies toujours élevés en Europe et la politique américaine extrêmement agressive à coup de subventions en faveur de l'industrie plombent quelque peu la compétitivité française. Persuader les industriels de venir chez nous reste une mission délicate.
Éric Kioch, c'est l'un des domaines industriels où la France est la plus connue, le nucléaire. Même si le feuilleton de l'EPR de Flamanville n'est pas particulièrement brillant avec un retard de 12 ans, le chantier touche à sa fin et la consultation publique se termine aujourd'hui. Le réacteur devrait être connecté au réseau dès cet été. Et dans le Cotentin, autour de Flamanville, c'est très bien accueilli, Zoé Pallier.
Dans les années 70, les Français pour la plupart ont peur du nucléaire. Les habitants de Flamanville, eux, l'ont presque banalisé. Ils vivent déjà près d'un centre de retraitement de déchets et d'une usine de sous-marins à propulsion nucléaire. Le contexte est favorable, résume Anaï Kouiri, géographe à l'université Gustave Eiffel.
Sur le site de Flamanville était auparavant une mine de fer qui avait fermé. Du coup, les habitants ont plutôt vu d'un bon œil la réouverture d'un site industriel à cet endroit-là. Il y a quand même eu des grandes manifestations. Mais c'était en partie des militants qui venaient de l'extérieur du territoire.
Depuis, la population locale reste globalement acquise au nucléaire. Le secteur représente un emploi sur 3 dans le département. Frédéric Lemarchand est sociologue à l'université de Caen.
Tout en dépend. Les ouvriers, les ingénieurs, la sous-traitance directe et indirecte, là il y a aussi des milliers d'emplois. Et ensuite, les collectivités, c'est-à-dire quand on traverse ces territoires, on voit les signes d'une richesse. Par exemple, un stade de football ou une piscine à jacuzzi dans des communes.
Et cela joue forcément sur la perception des risques, analyse cet expert. Par exemple, 56% des Français estiment que les contrôles de sûreté sont efficaces. Ce taux grimpe à 69% pour ceux qui vivent à moins de 10 km d'une centrale.
Un projet d'accord entre les syndicats et l'UDP, l'organisation patronale des commerçants et artisans, qui relance la négociation, notamment sur le compte épargne-temps universel avec les syndicats. Le CETU, qui permet d'accumuler des congés payés tout au long de sa carrière. Les discussions doivent continuer la semaine prochaine. Et puis un chiffre d'affaires en baisse de 2% au premier trimestre pour LVMH, également propriétaire de Radio Classique. Des chiffres à mettre au regard de l'année 2023. Exceptionnel et du ralentissement en Chine. Le géant du luxe défend une hausse de 3% à taux de change et structure identique. Voilà pour l'actualité économique dans 30 secondes. La météo et la suite de la matinale.